Il est 21h passé de quelques minutes. Vous êtes rassuré depuis jeudi car vous allez pouvoir fêter Noël en famille.
Ouais!
Ah ouais! Ah ouais!
Et profiter des pistes de ski mais pas des remontes-pentes. Ce qui, avouez-le, est plutôt une sombre image de notre gouvernement adepte des glissades incontrôlées en période de crise.
J'ai glissé, chef.
Mais pour le moment, vous êtes installé chez vous, un verre à proximité de main, les pieds en éventail malgré vos charentaises.
La 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 la, il ne peut plus rien
nous arriver d'affreux maintenant.
Et vous n'avez pas tout à fait tort ni tout à fait raison. C'est la règle du en même temps. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'équipe est presque réunie au grand complet. C'est une chouette nouvelle, non ?
Ah ben.
Mais honnêtement, si vous avez regardé une certaine vidéo de télésurveillance, que vous avez vu les trombines des 388 députés qui ont voté une loi dont l'intitulé même pose une question démocratique, et que vous avez bravé le beau temps sanitaire pour postillonner à tout va vos justes revendications, nonobstant un idéal vain, alors, comme le regrettait Sean Connery, vous arriverez à la même conclusion.
It's been a bad year. Next one will probably be worse.
Mais réjouissons-nous, vous êtes toujours en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous, Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Alors, je crois qu'on a déjà entendu Linda rire, mais bonjour les amis.
Bonjour, oui, excusez-moi, j'ai ricané même, on peut dire.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour ou peut-être bonsoir, hein, chers amis.
Ah oui, toujours la précision de Toups. Nous sommes toujours en léger différé façon Pulse le sonore. C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Et maintenant, générique maestro.
Chaque semaine, chaque mois, et je mordrai sa joue qui un jour fut à moi sur le piano de ses nuits, sur le piano de ses draps. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que la vie d'artiste n'est pas rose, n'est pas sans tache. Comme un navire qui tombe, qui rompt ses attaches, je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe en dehors de ça. La foule à ses pieds, sous les lambris dorés, qu'elle jouait Mozart Chopin. je tuerai la pianiste qui n'a pas su m'aimer. Dans la chambre je pleure où l'amour se cache. Je tuerai la pianiste afin que l'on sache que quelque chose existe. Que le jour sera levé sur le satin de ses méfaits, comme une pierre soulevée au bruit la vermine dans le champagne caviar, dans son manteau vernis, on pourra la voir le corps habillé au fond de ce cabinet noir. Pour ce qu'elle a fait de moi, chaque jour que Dieu fait, chaque semaine, chaque mois. Et quand ce sera fait, que le jour se lèvera par l'entrée des artistes, quand on saura que c'est moi. Alors, je m'en irai, je la couvrirai d'un bras. Alors, je m'en irai. Je suis un Indien, je suis un Apache. Je suis un Indien, je suis un Apache, auquel on a fait croire que la douleur se cache. Je suis un Apache, je suis un Indien, auquel on a fait croire que la montagne est loin. Je tuerai la pianiste. Je tuerai la pianiste.
Sur les conseils de DJ Ducloc, alias Aymeric Cloche, de l'association nantaise Fondue au Noir, vous écoutiez « Je tuerai la pianiste » d'Alain Bashung, un titre qui n'est pas sans rappeler et un roman de David Goudis et un film de François Truffaut. Au sommaire de cette émission qui aime à explorer toutes les formes du noir, une interview de Carlos Salem à l'occasion de la sortie de La dernière affaire de Johnny Bourbon, son dernier roman paru chez Actes Sud. Notre débat préféré s'intéressera à l'enfer de Claude Chabrol avec Emmanuel Béard, François Cluzet, Marc Lavoine et André Wilms. Il ressort chez Carlotta dans un coffret réunissant 5 des films du réalisateur sous le titre « Suspense au féminin ». Luc, pour sa chronique « On n'achève pas les classiques », s'intéresse lui à la réédition dans une nouvelle traduction d'un roman du grand et regretté Elmore Leonard. Swag. Quant à Toops, il m'a semble-t-il parlé de claquettes. Tu confirmes, Toops ?
Bah, c'est le côté, tu vois bien, c'est... on est au mois de novembre, c'est l'été, donc les tongs, les claquettes, quoi.
D'accord. Je me demande si on a raison de faire cette émission dans les conditions du direct. Bon, donc vous ne nous avez pas préparé un petit numéro avec Linda de claquettes,
non ? Ah, la prochaine fois, c'est promis.
D'accord. Alors pour l'heure, on commence avec Carlos Salem. L'écrivain Carlos Salem donc est un touche-à-tout littéraire reconnaissable dans les festivals français et de Navarre qu'il hante à satiété, à son bandana qu'il porte comme le pirate amoureux des mots qu'il est. La dernière affaire de Johnny Bourbon, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs, est incontestablement l'œuvre de la maturité, en même temps qu'un récit crépusculaire. Et oui, on retrouve dans son roman le personnage de José María Arregui, croisé dans Je reste roi d'Espagne. L'inspecteur à la criminelle est aujourd'hui un détective privé de 50 ans, comme nombre d'autres acteurs du roman. À l'exception notable de ce Johnny Bourbon, qui n'est autre que le pseudonyme de...
José María Arregui.
Non.
Montalbán.
Non. Juan Carlos, messieurs, dames. Juan Carlos. Il a rencontré Juan Carlos dans Je reste roi d'Espagne. Et les deux hommes s'apprécient depuis ces aventures baroques et picaresques de 1911. Ils vont ici se côtoyer, se supporter et vivre une enquête langoureuse, lente et meurtrière pour éclaircir les raisons du décès de Joaquín Latro Rapines, un homme qui détenait des dossiers sur la quasi-totalité du monde politique. Alors, je ne vais pas explorer plus longtemps l'intrigue de ce roman, juste dire que c'est un mélange entre le hard-boiled américain matiné d'une écriture poétique et empreinte de culture méditerranéenne. Quelque chose qui se trouve à mi-chemin entre Raymond Chandler et Manuel Vázquez Montalbán.
Ah, que si.
Mais, et c'est important de le noter, c'est peut-être le récit le plus intimiste d'un auteur qui a fui l'Argentine et sa dictature et qui s'interroge sur la beauté de son pays en même temps que sur sa relation parentale. S'il a commencé à publier des romans sur le tard en 2007 avec Alessandre chez Moisson Rouge, où il a rencontré Judith Vernon qui, après l'avoir édité, le traduit chez Actes Sud, Carlos Salem nous enchante d'une œuvre parfois foutraque, héritée des auteurs argentins du genre Raoul Argemi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'à la lecture de la dernière affaire de Johnny Bourbon, vous ressortirez avec une bonne dose de mélancolie et l'envie de vous enfiler un verre en silence, en pensant à vos amitiés perdues, vos amours défuntes et à cette société qui va... On ne sait pas trop où.
Ouais, et tu dis, 50, il a 50 ans, le personnage?
Ouais, 50 ans.
Il a une Rolex, au moins?
Non, il n'a pas de Rolex, je suis déçu. Hein, t'es déçu.
Non, mais il a raté sa vie, le pauvre.
C'est pas un héros, ça. C'est pas un héros.
C'est un contre-héros.
Ah, c'est un contre-héros.
Un anti-héros, messieurs. On dit un anti-héros.
Ouais, à moins que ce soit un contre-héros.
Un contre-héros, comme il y a des contre-allées.
Tout contre, alors.
Bref, il nous enchante avec cette société patibulaire. On écoute maintenant ce sorcier de Salem qui est Carlos, sous-vocalisé par Elodie. Carlos Salem, qui est José María Arregui?
Arregui est mon détective. Je crois que c'est le genre de personnage que chaque auteur de roman noir souhaite créer sans avoir peur que quelqu'un lui fasse remarquer que les détectives sont des personnages improbables. J'écris autour de personnages improbables pour raconter ce qu'il se passe dans la vraie vie. C'est un point de vue qui parfois peut paraître un peu fou, mais c'est une manière de dépeindre la réalité. Arregui en est un à un moment de sa vie où s'il n'est pas encore vieux, il s'en approche. Et il a peur d'avoir peur d'avoir peur. Et il a peur de se sentir vieux. Il est très proche, comme tu le sais, de son père. Et ils attendent de l'autre quelque chose d'assez compliqué.
El final de la vida de su padre y eso te pone ante un espejo que es un espejo bastante complicado.
Qui se cache derrière ce pseudonyme de Johnny Bourbon?
Johnny Bourbon, c'est Juan Carlos de Bourbon. Juan Carlos Ier, l'ancien roi d'Espagne, qui était déjà un personnage secondaire de mon roman Je reste roi d'Espagne, édité il y a quelques années et qui a été bien accueilli en France, ce qui m'a apporté beaucoup de joie. Et dans cette intrigue, il revient, lui aussi plus vieux, beaucoup plus fatigué, et il sent que le temps où il apparaissait comme un personnage sympathique et drôle s'en est allé. J'ai écrit au sujet de ce roi avant que tous les scandales surgissent, mais d'une certaine manière, c'est un personnage fatigué qui sait que son règne en est à sa fin.
En quoi as-tu écrit un roman crépusculaire?
Je crois que c'est un roman crépusculaire. D'un certain côté, et pour paraphraser certains de mes personnages, nous sommes en train de vivre une période crépusculaire. Et d'un autre, Il y a ce que nous vivons aujourd'hui en Espagne avec la corruption à grande échelle que nous connaissons tous, ou connaissons sans vraiment connaître.
La grande quantité de casos de corruption que hubo, que parece que no sabíamos o no queríamos conocer.
Quels sont les auteurs qui t'ont influencé?
Mes références littéraires sont infinies.
Il y a des gens qui sont pour moi très importants. J'apprends beaucoup des très bons écrivains. Comme des très mauvais.
Más de los malos,
mais je cite seulement les bons.
Los buenos.
Pour moi, le commissaire Annensberg de Fred Vargas me paraît extraordinaire. Mes références sont à chercher chez Italo Calvino et Daniel Pennac.
O sea,
et je ne sais pas comment on peut ne pas
Daniel
citer
Pennac,
Jack London.
No sé cómo podía decir Jack London. O sea,
cela, je les ai lus. Il m'intéresse tout comme Hemingway. Il savait écrire des dialogues.
Et de tous algo Hemingway. Por ejemplo, yo tengo una gran debilidad
je ne sais pas si
diálogos.
En français ça se remarque.
No sé si en
je crois que la traduction
nota,
est bonne.
Creo que la traducción es muy buena, así que creo que se notará. Entonces,
Hemingway et Bukowski m'ont appris beaucoup sur la manière d'écrire et j'essaie de faire du mieux que je peux.
He intentado
beaucoup de références.
Tengo muchas referencias.
Tu es plutôt Agatha Christie ou Raymond Chandler?
Yo creo que soy más
je me sens plus proche de Chandler que d'Agatha Christie. Comme lui, je la déteste agréablement. Elle m'apparaît un divertissement. Elle me paraît trop classique. Raymond Chandler a créé un personnage qui a connu la guerre et qui croit en un certain idéal. Et aussi qui croit aux gens qui se confrontent aux institutions nécessaires à la démocratie. Dans les romans d'Agatha Christie, le coupable est souvent un pauvre, un asocial. Dans les romans d'Agatha Christie, le coupable est en marge de la société. D'une certaine manière, quel que soit le système, elle a le même coupable. Dans la littérature noire et la réalité, le coupable, c'est le système. L'assassin, c'est le système. Et ça, Chandler le montre très bien. Je l'ai dit et je l'ai écrit. Agatha Christie dépose le crime dans un vase de porcelaine. Je crois qu'elle ne remue pas assez la boue. Manuel Vázquez Montalbán est une autre de mes références et on partage la même réflexion. Manuel Vázquez Montalbán, Raymond Chandler ou l'Argentin Osvaldo Soriano sont des auteurs formidables, indispensables pour comprendre ce que j'écris. Et bien sûr, Paco Ignacio Taibodos, c'est une personne qui m'a appris à écrire avant que je le connaisse personnellement. Je le considère comme un ami. Mais pour en revenir à Manuel Vázquez Montalbán, il a des fulgurances très poétiques. Et les poètes, parfois, regardent par-dessus notre épaule. C'est d'ailleurs ce que font les auteurs. Manuel Vázquez Montalbán a une place importante parce qu'il est poète et journaliste. Il peut raconter avec des mots et une tonalité qui nous semble fou, une réalité qui est plus folle encore. Manuel Vázquez Montalbán est pour moi autant indispensable que Paco Ignacio Taibodos, Raymond Chandler et Osvaldo Soriano. Mais je remercie Manuel Vázquez Montalbán car grâce à lui, j'ai pu comprendre l'Espagne avant de venir en Espagne.
La dernière affaire de Johnny Bourbon, c'est le roman de la maturité pour toi ?
Je crois que ce roman est plus sage que ceux qui l'ont précédé. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce roman est un regard sur la vie, certains événements de la vie. Dans le roman, le roi Juan Carlos est un personnage secondaire qui accompagne
Enrique.
C'est un Sancho Panza.
Una comparsa, un acompañante, un Sancho Panza.
Enrique est un personnage qui rencontre la tristesse et qui se confronte à la folie de notre pays. Et je pense que le roman est tendre, car il propose un équilibre entre ces personnages.
C'est quoi le voyage en Argentine, hormis un retour aux sources ?
À
la fin de mon roman, le personnage principal part en Argentine avec son père.
Je
suis né en Argentine, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Espagne. Je ne peux pas dire que je suis un grand nostalgique de mon pays. Bien sûr, j'ai souvent envie d'y revenir, parce que c'est une partie de moi. Je suis un écrivain nostalgique qui aime raconter les histoires tristes qui touchent les lecteurs.
Historias tristes que hacen reír a las personas.
Mon père est mort entonces, pendant que j'écrivais ce roman. También, et cette partie est aussi un hommage que je lui rends.
A mi padre que ya había
et le voyage final, c'est aussi pour me rapprocher de lui.
El viaje, ese final era como un viaje que yo le debo a mi padre de hacer junto con él.
On écoute quoi comme musique?
La chanson que j'ai choisie s'intitule Cerca de la Revolución du compositeur de rock argentin Charlie García. Elle me rappelle les années 1980 et elle m'accompagne depuis longtemps. Je la mets pour me lever car c'est une chanson positive. Charlie Garcia, pour moi, est un génie sud-américain qui me fait penser, par son génie et sa folie, à des personnes comme John Lennon, Jimi Hendrix et les Rolling Stones. C'est un mélange de tout ça. Il me donne beaucoup d'énergie. Il m'accompagne depuis plus de 10 ans.
Así que por eso la elegí, porque es una canción que me acompaña.
Playback. Yo empiezo a cantar en un momento. Toquemos esto. Apaga la luz. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien.
Yeah. pour ça.
Alors, vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Nous écoutions Cerca de la Revolución, un programme pas que musical de Charlie Garcia, proposé par Carlos Salem. Je vous rappelle le titre de son roman, La dernière affaire de Johnny Bourbon, et c'est chez Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Demain, dûment muni de votre attestation, affublé d'un masque que vous tenterez grotesquement de maintenir au-dessus de vos narines, vous pourrez vous précipiter dans ce petit commerce non nécessaire qui s'appelle une librairie et en faire l'acquisition. Mais vous entendez cette petite musique ? Eh oui, c'est l'heure de notre débat DVD. Et je sens que Luc va nous en causer un petit peu après cet extrait.
Non, fais pas ça. Fais pas ça, attention. Fais pas ça, attention à toi. Attention à toi. Oui. Eh ben voilà. Maintenant, si elle est pas chez sa mère, tu seras fixé.
Alors, les amis, vous avez révisé vos classiques de philo de terminale ? Vous vous souvenez, Sartre ? L'enfer, c'est les autres. Eh bien, Claude Chabrol, dans ce film, prend son courage à deux mains pour nous faire comprendre que l'enfer, ce n'est pas les autres, mais nous. Paul, magistral François Cluzet, est marié à Nelly, plus qu'excellente Emmanuelle Béard. Ils ont un fils et ils dirigent un hôtel. Paul est ébloui par Nelly et il ressemble à un couple heureux. Mais voilà, le germe de la jalousie se développe dans la tête de Paul et va coloniser son esprit au point de le transformer en tyran de sa femme. Histoire banale de jalousie, diraient certains, drame superficiel et presque boulevardier, diraient d'autres, que Nelly. Chabrol, sur un scénario de Henri-Georges Clouzot, que l'on retrouve parfaitement dans l'esprit de ce film, enferme son personnage dans une trame si serrée qu'elle le confine progressivement dans la paranoïa. Chabrol fait monter progressivement la psychose de Paul. Du doute naissant, il l'emmène dans l'obsession de la surveillance, lui faisant traquer le moindre détail justifiant ses doutes. Qui n'a pas connu d'amour violent ne peut savoir de quoi il retourne. Pourtant, au début du film, on ne sait qui, de Nelly ou de Paul, est responsable. On se fait piéger par Emmanuelle Béard, présentée comme une allumeuse, mais en réalité, c'est dans les yeux de François Cluzet. Et Chabrol va nous montrer, avec un art relevant du sadisme, la lente dégradation des deux personnages. Paul sombrant dans la folie et Nelly dans la névrose des femmes maltraitées par leur conjoint. Il est évident que l'ombre du grand Hitchcock plane sur le film. Chabrol en a adopté tous les codes jusqu'au personnage. Emmanuelle Béard n'est pas si loin que ça de Kim Novak, et François Cluzet peut tenir la dragée haute à Cary Grant ou Anthony Perkins. Intérêt anachronique du film, puisqu'il résonne tout particulièrement aujourd'hui, celui des violences faites aux femmes. Chabrol traite brillamment le sujet, sans fournir d'excuses à François Cluzet dans sa dérive paranoïaque, un film d'une étonnante modernité.
Donc, merci Luc pour cette introduction sur l'enfer de Chabrol. Linda, il t'a plu ce film, toi qui d'habitude est un peu moins réceptive aux films que je propose?
Certes, alors là je me suis dit, bon, Chabrol, ça va être cool, ça va être bien. Alors, je l'avais vu il y a longtemps, bah, ça sortit en fait. C'est marrant, mais comment dire, Emmanuelle Béard m'avait pas agacée comme ça à la sortie. Je suis désolée. Il y a des scènes, je trouve, très chouettes, où ça va chercher justement, où elle va chercher dans le grave. Mais alors, tout le début, je trouve qu'il a... Chabrol a une façon de la filmer, j'ai l'impression de voir un défilé de mode. Je me retourne, je regarde face à la caméra, je fais un grand sourire, je minaude. Elle n'a pas besoin de ça, elle est tellement belle. Et j'aime pas la façon dont il la montre, en fait. Je trouve qu'elle aurait vachement plus de... beaucoup plus de chien et de dangerosité en étant montrée avec moins de papillonnage. Après, il y a des scènes... Je trouve ça un peu trop long, j'avoue. Il y a, et que ça vieillit, en fait. Perso, hein, moi aussi, j'ai vieilli. Donc forcément, j'ai pas pris les choses de la même façon. Il y a des super scènes. Notamment quand lui il pète les plombs, il y a de la violence entre eux, enfin, il y a vraiment des choses qui vont chercher assez loin au niveau émotionnel.
Toups, un mot sur Emmanuel Béard?
Un mot sur le film peut-être. Emmanuel Béard, elle m'a pas dérangé de la même manière que Linda. Moi, elle m'a. Étonnamment, j'ai été totalement indifférent à Emmanuel Béard.
Ah, c'est ce dommage film. Parce que normalement, tu es censé être complètement aspiré par le charme.
Moi, je suis complètement inspiré par le charme. Je suis un très bon public pour ce genre de choses, c'est vrai. Mais, et en plus, Chabrol, il affirme en deux façons. Donc, Emmanuel Béard en vrai dans le film, Emmanuel Béard fantasmé par Cluzet. Et dans les deux cas, moi, je la trouve vraiment, vraiment bien.
C'est une conversation, ça va, ça vient. Emmanuel fantasmé par Cluzet.
Par Cluzet,
c'est là où Anne Minot, où tu trouves.
Non, là, Anne Minot, mais moi, même là, je trouve ça cliché comme cliché par plein de réalisateurs qui ont une image de la femme fatale que je trouve pénible, quoi.
On n'est pas dans l'image de la femme fatale.
Oh, quand même, quand elle fait, quand elle est avec Marc Lavoine, je trouve que c'est la façon dont le charme agit, etc. Enfin, je sais pas. Moi, ça me rentre pas dans le ventre, en fait. Je vois ce qu'il veut nous dire. Mais ce qui me gêne, c'est que je le vis pas, je suis pas émue par ça. Tu vois, ça va pas me tirer.
Peut-être pas émue par ça, parce que vraiment, dans ce fantasme de Cluzet qui nourrit sa jalousie, c'est vraiment le regard d'un homme et sur une femme. Donc effectivement, elle pourrait peut-être plus t'intéresser si elle avait été vue par une femme, sauf que là, elle est vue par un réalisateur masculin qui parle d'un personnage masculin. Donc voilà, il la voit... Effectivement, c'est un gros cliché aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, ça l'était moins, je ne sais pas. Il date de quand ce film déjà? De 94, un truc comme ça?
Oui, c'est ça, 93, je crois, de mémoire. Moi, j'avais... Alors c'est marrant parce que je l'ai vu aussi à sa sortie et je l'ai vu avec l'œil que j'avais à l'époque, qui est donc un œil qui a été changé au fur et à mesure du temps parce que j'ai grandi.
T'as vieilli comme moi.
J'ai changé d'avis et tout ça. Et je me suis dit tiens, c'est la jalousie, c'est un thème qui a déjà été traité. Mais il y a quelque chose chez Chabrol dans cette façon de faire porter l'intégralité de la culpabilité sur Cluzet que j'avais pas vu au début. C'est-à-dire que c'est vraiment la vision de Cluzet, la vision déformée de Cluzet qui amène au drame. En plus, Béard, dans le film, au début, elle essaie de pas être naturelle et de correspondre à ce que veut son mari. Et lui, il continue.
Oui, donc, l'entrée est intéressante. De toute façon, avec quelqu'un qui est jaloux, tu perds forcément. Parce que tu fasses ce qu'il attend pour essayer d'amoindrir le problème, ou que tu restes naturel, de toute façon, enfin, il y aura problème.
Ah oui, c'est la jeu de qui perd.
Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, il montre bien, parce que même quand elle essaie de dissimuler des choses, parce qu'elle sait que ça va le mettre en colère, il finit par s'en apercevoir. Donc, ça prouve bien également que c'est une salope. Et si elle ne le cache pas, de toute façon, il l'accuse pareil. Donc ça, c'est vrai que moi, cette entrée-là, je trouvais qu'elle était très... Oui, très...
Pertinente. Pertinente.
Oui, et puis c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, retrouve un certain écho. Enfin, tu dis que c'est assez un peu vieilli, alors évidemment...
Non, c'est dans l'entrée, l'imagerie, quoi.
Et évidemment que la façon de tourner de Chabrol, elle a vieilli, que c'est un réalisateur à l'ancienne. Alors, ça a peut-être plus vieilli que des films de Sauté. Dans la texture, dans l'approche, mais il y a un truc là qui pour moi fonctionne encore. Moi, j'ai juste un problème avec Marc Lavoine. Je trouve que c'est le vieux beau, il m'énerve.
Attends, à cette époque là il est très jeune,
c'est un jeune beau.
Il fait déjà vieux beau, d'ailleurs il est garagiste
et donc...
il est le fils du garagiste. précédemment.
Non, je te jure. Oh, il n'est pas subjectif du tout.
Non, moi j'ai trouvé qu'il
jouait bien. C'est pour les clichés qu'on enfonce.
Il est bien dans un cliché, mais je pense que ça devait correspondre aussi à la vie qu'il traversait à ce moment-là, le pauvre, quoi. Ça fait combien d'années qu'on le connaît, Marc Lavoine ? Depuis qu'on le connaît, il est dans le succès.
Enfin,
depuis qu'on connaît, il a les yeux revolver, hein. C'est surtout ça.
Ah, oui, c'est ça. Donc voilà, le jeune beau.
Le rôle ne lui demande pas autre chose en même temps, là, pour le coup.
Ben voilà,
parce qu'il va pas.
D'ailleurs, dans mon souvenir, il était beaucoup plus présent dans le film, ouais. Alors que là, il est. Enfin, il est quasiment absent.
Oui,
enfin,
il y a
des scènes en voiture, il y a des scènes avec le rétroprojecteur dont je me rappelais
dans la nuit,
et il y a le ski nautique. En revanche, je ne me rappelais pas de cet acteur Alain Wims, qui fait le docteur, et qui, à mon sens, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, c'est la deuxième personne responsable du drame.
Disons qu'il a sa part de responsabilité. Hein. C'est clair que c'est un peu comme le médecin de Michael Jackson qui lui prescrit quand même le médicament.
Tu veux dire qu'il agit pas et que...
Alors, il agit pas. Et puis, quand Emmanuel Béard vient se réfugier chez lui parce qu'elle a été... Elle a été violée, hein, soyons clairs. Il la remet dans les bras de son mari parce qu'il ne peut pas le foutre, lui, dans un hôpital psychiatrique. Mmh. Et donc, il va le laisser une nuit. Et là, l'enfer, c'est pas les autres. Hein, l'enfer, c'est Clusé. Mmh. On va pas dire la fin du film.
Oui, parce que là, t'es en train de t'acheminer vers ça, quand
mais
même.
Je suis en train de... Mais normalement, tout le monde l'a déjà vu.
Normalement, tout le monde l'a déjà vu. Moi, c'est la première fois que je le voyais. Mon cher monsieur, je ne l'avais pas vu à sa sortie, je ne l'avais pas vu
mais
après.
Ça me fait réfléchir à ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être, effectivement, j'ai une saturation de la majorité des réalisateurs étant masculins, c'est quand même souvent une vision masculine qui est mise. C'est peut-être plus ça plutôt que le fait que c'est vieilli qui m'a un peu... j'ai fait « oh, encore ». Tu vois, en sentiment. C'est peut-être plus ça, en fait, qu'autre chose.
C'est vrai que j'ai pas beaucoup proposé de films de réalisatrice depuis.
Mais il n'y a pas beaucoup de choix en même temps.
Il n'y a pas énormément de choix.
Non, surtout dans nos genres, dans les genres que j'affectionne.
Et oui, puis à l'époque, en plus, si tu fais des films, enfin, il y en a plus maintenant des réalisatrices. Mais.
Pour finir sur ce film-là, moi je trouve, enfin voilà, dans le traité de la jalousie, qui est donc quelque chose qui avait déjà été vu notamment par Boulonard Sejac, qui avait fait aussi des choses assez similaires. Et puis là, on ne l'a pas dit, mais Chabrol, il est un peu orienté, enfin, influencé par Henri-Georges Clouzot, puisque c'est quand même un scénario à la base qui est pour Henri-Georges Clouzot.
D'accord.
Et que Clouzot devait tourner avec Serge Reggiani. Et les deux sont malades, donc finalement ils vont abandonner le projet et ils le récupèrent, et on voit bien un peu ces influences dont Luc a parlé entre Clouzot et Hitchcock. Sauf que moi je trouve par moment la voix de Clouzot, elle est un peu lisse, mais je sais pas ce que vous en pensez.
Ah, moi il y a des moments où j'ai pas été convaincu par Clouzot.
Ah oui, c'est marrant, moi je pensais que c'était à cause du rythme parce que ça fait quand même pas mal le yo-yo. Bon, au bout d'un moment, je me dis, bon, on a compris la montée, il faudrait que ça monte vraiment, quoi. Mais je sais pas si c'est le plus Clouzot que le rythme global du...
Moi, le rythme m'a pas dérangé, parce que c'est un rythme comme ça, c'est... Enfin,
oui, ça met dans une atmosphère dans laquelle tu es,
vois, et
moment, elle devient...
Voilà, et puis ça, la pression monte, et toi, t'as juste une envie, c'est qu'on arrive au drame, parce que tu sais qu'il va avoir lieu. Et puis lui, bah, il retarde un petit peu le moment de ce drame, donc finalement...
Mais bon, du coup, ça fait des... Excuse-moi à répétition.
Oui, oui, beaucoup.
Trois mots, Toups, sur ce film. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
La stupéfaction de voir qu'on est dans les années 2020 et qu'il y a énormément de cigarettes tout le temps.
Oh, là, quand elle fume avec son gamin juste à côté, quand il y a le médecin gamin. Et tout, j'étais là, ça a bougé par
exemple. Quand on voit au début du film, quand on voit François Cluzet se réveiller au milieu de la nuit, on se dit qu'il a un souffle au cœur. On ne comprend pas qu'il s'agit de l'oppression, de l'angoisse, de ceci, enfin de la jalousie qui le ronge. Et au début, tu as l'impression qu'il a un souffle au cœur. Et le premier réflexe, il a se prendre une clope. Tu te dis, mais OK, c'était une autre époque. C'était trois mots.
D'accord.
C'était une autre
Linda, époque. Linda, un adjectif pour ce film.
Tondu.
Et Luc, qui n'est pas là, mais qui a enregistré un petit truc, qu'est-ce qu'il pense ?
Ah, l'enfer, il n'est pas pavé que de bonnes intentions. Même les mauvaises ont leur place et le vénéneux Chabrol cet hiver. Il semble installer une question en poussant la sensualité d'Emmanuel Béart à l'extrême. Et le traître rend le spectateur masculin coupable de ses pensées libidineuses. Dans l'enfer, Chabrol porte l'art hitchcockien à son extrême et on sort de la projection vidée. On ne peut dire que chapeau bas, monsieur Chabrol.
Voilà, donc c'était le film L'Enfer de Chabrol. Je rappelle qu'il sort dans un coffret DVD avec 4 autres films. C'est chez Carlotta et ça s'appelle Le Suspense au féminin. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, yeah, people tell me there ain't no use in trying, yeah. Now my girl, you're so young and pretty, Radio G au 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Nous écoutions We Gotta Get Out of This Place d'Eric Burdon et The Animals, toujours sur les conseils d'Emeric Cloche. L'histoire d'un coin de ville pourri et d'un gamin du coin qui regarde son père qui meurt dans un lit et qui décide d'aller voir ailleurs du pays. Nous entamons notre dernière ligne droite avec On n'achète pas les classiques de Luc et sa jazz bébé de Toups. Luc, c'est à toi.
Julien, ce n'est pas à toi que je ferai un cours sur la littérature de mauvais genre et tout particulièrement le polar. Il me semble que tu connais parfaitement le domaine Aussi, chaque fois à l'heure de rédiger cette chronique, je tremble un peu en me demandant si mes choix ne sont pas trop mainstream. Aujourd'hui, en choisissant un titre publié aux excellentes éditions Rivage, dans leur catalogue de l'automne, je suis sûr de ne pas faire de faute de goût. Mon choix s'est arrêté sur Swag de Elmore Leonard, une pépite que l'on déguste avec gourmandise en se demandant comment il est possible de faire aussi simple, aussi élégant, aussi vénéneux. Toute l'histoire se passe à Détroit, Motown, la ville de l'automobile. Frank Ryan est représentant en voiture d'occasion. Un jour, il voit un homme au volant d'une de ses voitures sortant de l'espace où elles sont exposées. Il l'interpelle et Ernest Stickley Jr., dit Stick, le voleur, lui répond tranquillement que c'est la sienne et s'échappe. Frank Ryan appelle la police. Stick est arrêté, mais lors du procès, Frank refuse de reconnaître Stick. Il l'interpelle à la sortie du tribunal pour lui proposer de s'associer pour gagner de l'argent facile, à coup sûr. Pour cela, Frank a rédigé un protocole en 10 points qui garantit le succès. Et pendant plusieurs mois, ils vont commettre des vols dans des épiceries, des débits de boissons, sans jamais se faire prendre. Ils vont louer un appartement dans une résidence luxueuse avec piscine et pin-up qui se font bronzer et passer leur temps à faire des fêtes et à boire. Frank et Stick sont deux personnalités totalement opposées. Frank, le représentant de commerce type, toujours dans la frime, et Stick, le bad guy, mutique, avec une vraie éthique, prudent, réfléchi, qui maintient coûte que coûte le cadre des 10 règles du protocole. Leur apparente immunité, leur aventure de vol ne dure que quelques mois et ils n'en commettent qu'une trentaine, va griser Frank qui en veut plus, le gros coup. Stick va s'y opposer, mais va céder. Et ce qui doit arriver arrive, tout bascule. Il y a un art du roman noir et Elmore Leonard le maîtrise. Il brosse parfaitement le portrait des deux personnages principaux. Sans jamais grossir le trait, juste par la description de leur comportement et de leurs actes, il nous fait comprendre leur psychologie et l'on ne peut s'empêcher de s'attacher à Stick, prolétaire type des États-Unis des années 70, vivant la petite semaine de Larsin, rêvant de retrouver sa compagne et sa petite fille à Los Angeles, croyant naïvement au rêve américain. Il n'est pas un loser, mais on sent bien qu'il n'a aucune chance. Elmore Leonard nous plonge aussi dans le Détroit des années 70 avec ses gangs organisés. Frank et Stick sont des électrons libres dont le procédé leur laisse croire à leur impunité. Mais Frank est parfaitement intégré dans les réseaux. Qui a proposé le gros coup ? Lui, Frank, excité par ses exploits et sa réussite, ou le gang dirigé par Sportry, qui a vu en ses voyous à la petite semaine les deux parfaits pigeons. Et Stick, le réaliste, qui tout au long du roman exploite ses connaissances de l'univers et des conditions de vie des petits malfrats, qui ne veut prendre que des risques calculés, qui ne se laisse pas étourdir par les promesses de fortune rapidement faites, qui rappelle la 10e règle, ne jamais s'associer avec des criminels, mais qui va céder à Frank. Conflit de loyauté, piège de la fortune facile, désir de pouvoir en finir le plus vite possible avec cette vie de minable gangster. Tout au long du roman, Elmore Leonard va construire l'intrigue à la manière d'une tragédie grecque, sans brusquer le trait, en la laissant se dérouler à son rythme, sans chercher à piéger le lecteur par des subterfuges d'auteurs débutants, il va construire les portraits des deux protagonistes en nous faisant rentrer dans la tête de Stick. Et en cela, il nous le rend aimable. Quand Stick abat deux voleurs qui veulent le voler, il entre dans une tourmente de pensées, essayant de comprendre comment le drame, qui n'est pas la fin du roman, mais juste une péripétie, a pu arriver alors que Frank le console en lui disant que ce n'était finalement que de petits voyous, de surcroît noirs. Mais sous des airs de fluidité, la petite machine infernale construite par Elmore Leonard fait son œuvre. Nous, lecteurs, savons qu'il y aura un dénouement. Et par une série de renversements, dans les dernières pages, il nous laisse le souffle coupé. C'est du grand art d'écriture. Swag, d'Elmore Léonard s'est publié aux excellentes éditions Rivage, dont on ne dira jamais assez le mérite qu'elles ont à republier le patrimoine du roman noir, et c'est à déguster sans modération.
Alors Toups, ça jazz, baby?
Ah ben ça jazz, ça jazz, ça jazz. Pour ceux de nos éditeurs qui auraient du mal à se souvenir des Nicholas Brothers, après tout il est possible qu'il y en ait, hein. Et pour ceux qui les confondraient confusément avec les Allman Brothers ou les Berry Brothers ou les Blues Brothers.
Les Berry Brothers?
Oui.
Dans le Berry, tu veux dire qu'il y a des Brothers?
Non, c'est ça, je t'ai tendu la perche quand même.
Ouais, quand même.
Non, les Berry Brothers, c'était un trio de danseurs acrobatiques. Les excuses à la table.
Oui, c'est ça.
on y soit qui berrichon.
Donc tu pourrais les confondre avec... Eh ben, c'est tout simplement qu'ils font pas... Les gens, ils font pas appel au bon compartiment de la mémoire s'ils confondent avec tout ça. Parce que les Nicholas Brothers sont effectivement des sacrés musiciens. C'est des chanteurs et des musiciens. Mais surtout, ils ont dû leur succès à leur capacité unique de rendre la musique visible.
Visible?
Je vous laisse méditer un petit coup là-dessus, le temps d'un coup de gueule. Alors, je sais, normalement, c'est plutôt en fin d'émission, les coups de gueule, mais celui-ci, c'est pas de moi. C'est le coup de gueule de Maurice Hines, le frère aîné de Gregory Hines. On écoute.
When people come to me and tell me, is Michael Jackson a great dancer? I said, what? What are you talking about? Did you see him get up on his toes? What are you talking about? Papa Louie did that. The Nicholas Brothers did that. Don't come to me and tell me something that's going to make me become truly angry that you don't do your history, especially as black dancers, and don't know where that greatness comes from. That comes from those people who came before us. And the Michael Jackson, Janet Jackson, all these dancers that are supposed to be dancers now, don't come close to the Nicholas Brothers.
Je la refais pour ceux de nos auditeurs qui ne maîtriseraient pas la langue de Shakespeare quand elle est articulée avec un chewing-gum en bouche. Parce qu'après tout, il est possible qu'il y en ait. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Michael Jackson est c'est un danseur génial. » Et moi, je leur dis « Quoi ? De quoi tu me parles ?» Ben, tu l'as vu, tu as vu comment il se met debout sur ses orteils. Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Popter Lewis l'a fait, les Nicholas Brothers l'ont fait. Alors, ne viens pas me dire quelque chose qui va finir par me mettre vraiment en colère. Et puis tu connais pas ton histoire par rapport à la danse des noirs. Black dancers noirs, c'est les danseurs noirs. Et tu sais pas d'où vient la grandeur de cette danse. Elle vient de ce que tous ces peuples, tous ces gens qui sont venus avant nous. Et les Michael Jackson, les Janet Jackson, tous ces danseurs ou tous ceux qui sont supposés être des danseurs n'arrivent pas à la cheville des Nicholas Brothers. Il était un peu énervé. Alors, les Nicholas Brothers étaient des chanteurs et des danseurs de claquettes, mais pas des petits. Hein. Dans la même interview, Gregory Hines raconte qu'à ses débuts avec son frère Maurice, les gens leur disaient qu'ils leur rappelaient les Nicholas Brothers et qu'ils allaient sans doute être les nouveaux Nicholas Brothers. Alors évidemment, l'idée du challenge leur plaisait beaucoup et puis un jour, ils ont fini par voir les Nicholas Brothers. Et là, ils ont compris que personne ne serait jamais les nouveaux Nicholas Brothers, en tout cas pas son frère élu. Faut-il rappeler qui est Gregory Hines, Linda?
C'est le meilleur danseur de claquettes ever.
Pour toi?
Pour moi.
Ouais.
C'est un assemblage de... À la fois, effectivement, c'est un musicien, c'est un comédien. Il y a une émotion dans ce qui passe, une inventivité. C'est le Nicholas Brothers, c'est hyper brillant. Techniquement, c'est époustouflant, il groove comme des malades, c'est tout ce qu'on veut. Gregory Hines, il casse les codes, il danse dans la rue, il fait tout, tout devient musique, tout devient danse.
Wow.
Et il casse, il est vraiment hors cadre.
Ah, yeah. Les Nicholas Brothers, alors, ils ont impressionné Balanchine, qui était un chorégraphe qui bossait beaucoup pour le cinéma. Et ils ont même enrichi leur vocabulaire chorégraphique à son contact. Donc on est dans les années 30. Plutôt précoce. Donc il y en a un qui avait 20 ans en 34, l'autre qui en avait 13. Le club Lafayette à Harlem et puis le Cotton Club pendant 2 ans. Avec devinez qui, les orchestres de Lucky Millinder, Cab Calloway, Duke Ellington et Jimmy Lunsford. Ah, je vois que vous n'en pouvez plus derrière vos postes de radio G101.5 et l'écoute de Calibre 58, alors allons-y. Comme mise en bouche, je vous propose cet extrait qu'on peut trouver assez facilement sur l'internet avec ce moteur de recherche qui permet de planter des arbres en tapant Nicholas Brothers plus Lucky Numbers. Ça date de 1936. Situation, des gamins plutôt bien habillés qui rentrent dans une maison de la radio américaine à une époque où tout, absolument tout, se faisait en direct. Il y a un orchestre sur place et des instruments qui traînent un peu partout. Les gamins veulent voir Monsieur Nattel. Ils se présentent en tant qu'amateurs, mais en précisant qu'ils sont les Nicholas Brothers. Ça veut dire que les Nicholas Brothers, c'était déjà non connu. Le gars est stupéfait d'avoir affaire à des amateurs et il lui demande qu'est-ce qu'ils font pour vivre, puisque c'est des amateurs, ils disent qu'ils vendent des tickets de loterie, des Lucky Numbers. Et lui, il leur fait passer une audition, parce que ce qui les intéresse dans la radio, c'est plutôt des gens qui chantent. Et je précise que la batterie exécute un mouvement basique à l'extrême, du type tchak tchak tchak, et que donc toutes les incroyables subtilités de percussion que vous allez entendre sont réalisées par deux paires de chaussures. Vos impressions, les amis? Vous avez entendu la précision rythmique? Vous avez senti la légèreté des danseurs? Ils donnent juste l'impression de faire aucun effort. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Fred Astaire et Gene Kelly.
Ginger Rogers.
J'y viens. Le gros truc, c'est ce film, comédie musicale, Stormy Weather. D'autant que là, dans ce film de 1943, les vedettes sont Lena Horne, et non pas Billie Holiday, Lena Horne, Bill Robinson, Cab Calloway, Catherine Dunham and her troupe, et le gros Fats Waller. Mais les Nicholas Brothers volent la vedette à tout le monde dans une apparition de seulement quelques minutes. Quelques minutes dont Fred Astaire lui-même dira que c'est le meilleur numéro de danse ever intégré dans un film. C'est quelques minutes, et c'est quelques minutes, et voici avec Cab Calloway et son orchestre. Vous avez l'impression ?
C'est avec l'escalier et tout ça, là.
Ouais.
Et les grandes marches, surtout.
Ah, mais non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai déjà... C'est la prouesse à la fois athlétique, musicale... Enfin, il y a tout, quoi.
Alors, vous allez me dire, mais oui, mais Michael Jackson... Alors, j'ai trouvé sur le site des Nicholas Brothers la phrase suivante. « They are also proud of some of students they have taught tap. They include Debbie Allen, Janet Jackson and Michael Jackson. » Bon, en fait, leur bio est tellement longue, moi je voulais juste rendre hommage à des musiciens hors pair qui ont un petit truc en plus que les meilleurs des musiciens, puisqu'ils rendent la musique visible. Total respect pour les Nicholas Brothers, et je finirai juste par un mot de Gregory Grant. « That's beautiful. That was really good. I mean, they bring the dance to the music, and then they dance right inside the music. »
On clap que des mains. Avec des fous des pieds.
Et pas mieux.
Peut-être qu'on le coupera au montage. Je vous rappelle le titre du roman de Carlos Salem, La dernière affaire de Johnny Bourbon, c'est chez Actes Sud. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses... Le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission et la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours, on se quitte avec une réplique culte de David Prowse, cet acteur britannique qui vient de décéder du Covid-19, abandonné donc par la force.
Side. Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
Salut Linda, salut Luc, salut Toops.
Au revoir tout le monde.
Et encore merci.
Bonsoir les amis.
Au revoir les amis.
Thank you. 101.5 FM.